One, two, three.
Bonjour, je m'appelle Constance Bisset.
Pierre Gagnère, cuisinier.
Mathilde Serrel.
Martin Kénéan.
Pierre Gagnère, chef multi-étoilé. Selon le Petit Larousse, vous avez fait votre entrée en 2013. Vous êtes connu de par le monde pour votre capacité à allier innovation et maîtrise technique, sens artistique et fantaisie. La définition vous sied-elle ?
Oui, rien à rajouter. C'est parfait. Bon, ça me semble pas mal. J'ai pas écouté, à vrai dire.
Bah écoutez, moi je pense qu'on pourrait... Mais c'est bien. Vous auriez pu dire d'accord à n'importe quoi.
Non, mais j'ai...
Moi je vous propose de parler davantage de cuisine instinctive et émotive qui improvise sur la table et devient un véritable théâtre à manger. À lire même dans La cuisine des 5 saisons de Pierre Gagnère, publié aux éditions Solar. Constance Guisset, vous, pas encore de définition Larousse à votre actif. Une chose est sûre, vous êtes une designer et une scénographe, élue meilleure designer de l'année au Salon Méso et Objets en 2010. Et vous présentez une exposition spectacle, un petit théâtre des objets, au musée Fabre à Montpellier. Jusqu'au 17 septembre, les formes savantes.
Ping-pong. La culture sans limite.
Oh, yeah.
Édito.
Bon, le pâté, c'est où ?
Oui, c'est pour moi. Merci.
Alors, je suis en fait fier aujourd'hui parce que je peux faire du repas vraiment syrien et vraiment damascien. Vraiment de Damas, d'origine. Mais avec des sauces un peu compliquées. Hein. Parce qu'il y a de l'ail, d'oignons, tomates, poivrons, trois couleurs. L'aubergine, aubergine grillée. Ouais.
Alors, d'aucuns craignent que les réfugiés ne nous retirent le pain de la bouche. Mais en ce moment, ce sont plutôt des réfugiés comme Houssam, qu'on vient d'entendre, qui nous préparent à manger. Ça s'appelle le Refugee Food Festival. Il a été créé par l'association Food Sweet Food et il est co-organisé par le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Ce festival itinérant propose, pour la deuxième année, de confier les cuisines de restaurants ayant pignon sur rue un peu partout en France à des chefs réfugiés. Cet événement affiche trois objectifs principaux, changer le regard sur le statut des réfugiés, offrir un tremplin à des chefs ayant bourlingué en facilitant leur accès à l'emploi et faire découvrir des cuisines venues d'ailleurs. Alors accrochez vos serviettes et préparez-vous, si vous êtes bordelais, à des barbecues arméniens ou des découvertes syriennes végétariennes. Pour les Lillois, c'est en ce moment notamment de la cuisine du Suriname ou de Mauritanie. Et puis à Paris, demain soir, en particulier pour la soirée de clôture à la rotonde de la place Stalingrad, eh bien, il y aura pas moins de 4 stands de street food préparés par des chefs français et d'étranges étrangers. Et ça ne laisse personne indifférent. Le chef syrien El Khaldi confiait ainsi au journal Le Monde « Si je vois un sourire s'allumer sur un visage, des yeux briller, alors j'ai la chair de poule, je frissonne de plaisir. C'est toute la magie de la cuisine, c'est du direct tout le temps. » Alors pour prendre directement rendez-vous, tout est à te retrouver à l'adresse refugeefoodfestival.com. Pierre Gagnère. Une question pour vous. Je ne sais pas si vous travaillez avec des réfugiés dans les cuisines de vos nombreux restaurants. Je crois qu'il y a près de 15 restaurants à travers le monde qui ont été fondés par vous aujourd'hui. Mais on le sait, il y a en particulier des réfugiés syriens qui sont nombreux dans notre pays. Ils sont nombreux aussi à proposer leur cuisine dans ce Refugee Food Festival. La Syrie, c'est une contrée où vous avez pu piocher, puiser des saveurs.
Oui, enfin, oui, on a un restaurant à Dubaï et on a plusieurs Syriens. Ils sont pas là pour des raisons, ils fuient pas le pays, hein, ils viennent pour travailler. Enfin, des gens qui ont un parcours, je dirais, plutôt paisible. Et j'ai retenu effectivement un pain soufflé syrien, voilà, qu'on utilise constamment. Voilà. Mais j'ai un peu honte parce que, J'ai l'impression de vivre dans une bulle. Vous savez, lorsqu'on est... bon, je crois que je suis plutôt un artiste, mais je suis devenu, par la force des choses, ayant fait faillite il y a 21 ans, un petit peu entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, eh bien, on a des établissements à faire tourner. Donc, il y a des contraintes économiques, des contraintes... et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, mon projet culinaire continue à énormément m'importer, mais je passe beaucoup de temps déjà avec les gens qui travaillent pour moi. avec qui je travaille. Je ne tiens pas d'ailleurs pour moi, on travaille ensemble, mais déjà il y a tout un travail de sur ces hommes qui sont des gens normaux, quoi. Hein, je dirais qui sont pas dans des difficultés terrifiantes, mais ces gens, il faut les emmener dans un projet qui est celui de la qualité, qui est celui du bienfait, qui est celui de la régularité, qui est celui d'une histoire qui doit durer. Et c'est vrai que tout ça fait que j'ai parfois l'impression d'être dans une espèce de navette spatiale dans laquelle j'ai embarqué des gens qui sont partis pour une aventure, mais ils savent pas toujours combien c'est difficile. Alors, il y a un gros travail de motivation, enfin d'entraîneur, quoi, de coaching pour que ces gens tiennent la route, quoi, voilà.
Alors, à l'instant, Pierre Gagnaire nous dessine le vaisseau de ces restaurants et de ces collaborations. Constance Guisset, la designer qui est autour de cette table, je voudrais poser une question sur un autre changement de regard, un autre changement de point de vue. Martin parlait dans son édito, à travers ce Réfugié Food Festival, d'un changement de regard sur le réfugié syrien en France. Vous, c'est le changement de regard sur la designeuse, si la féminisation est possible, que vous défendez. Vous posez des questions, par exemple, si j'étais un homme, parlerait-on de design sensible, poétique, délicat et touchant? Pourquoi couleur et courbe sont-elles associées au genre féminin? Pourquoi traits et cadres sont-ils associés au genre masculin? Changer le regard sur la femme designer pour ne pas genrer ses créations, c'est un combat?
Alors, c'est un combat. En vérité, je m'interroge toujours quand on vient me voir et qu'on me dit d'emblée que mon design est un design féminin. Et je pense que si j'étais un homme, on ne me poserait pas cette question. On n'aborderait pas le sujet de cette façon. Peut-être qu'on dirait que je fais un design sensible ou peut-être poétique, on utiliserait d'autres adjectifs. Et c'est vrai que cela m'étonne toujours. Je voudrais quand même rebondir sur une chose que Pierre vient de dire à propos du vaisseau. Moi, je compare toujours mon équipe à un bateau. En fait, j'ai l'impression qu'on est embarqué dans la mer et qu'on va contre les tempêtes, contre les vents, qu'on est ensemble. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bien choisir son équipe. Mais je considère aussi ce bateau comme une création à part entière. Je pense qu'on a la chance quand on est entrepreneur et quand on est créateur, quand on rassemble autour de soi des personnalités, on a la chance vraiment d'être dans une création en mouvement. C'est-à-dire des gens entrent, des gens sortent, des gens repartent et on vit une histoire ensemble à ce moment-là. Récemment, dans le livre que j'ai pu faire à l'occasion d'une exposition à Lausanne, j'ai fait un chapitre entier sur 8 chapitres, sur mon studio, sur les personnes qui constituaient ce studio et j'aimerais leur rendre hommage maintenant parce que je sais que c'est aussi important pour Pierre, je l'ai lu dans le livre aussi. Parce que sans ces personnes, nous ne sommes rien, nous ne ferions pas la même chose. Elles augmentent considérablement notre travail, notre pensée, notre création. Et c'est quelque chose qui est très très important pour moi.
Et vous aviez d'ailleurs le sentiment que c'était les mêmes mots dans votre aventure, dans votre entreprise, Constance Guisset, et dans celle de Pierre Gagnère. Ces mots pour dire le collectif.
Tout à fait. J'ai trouvé des mots très semblables, évidemment. Il y a l'idée de la création. Est-ce qu'on est un artiste? Est-ce qu'on a un artisan? J'ai trouvé ce questionnement. J'ai trouvé le questionnement aussi autour des personnes qui nous entourent. Parce que je pense qu'on ne fait pas les choses seules. Souvent, quand on est designer et quand on est une femme, on pense qu'on fait un travail tout seul dans sa cuisine et qu'on fait de la broderie ou du choix de couleurs. Et pas du tout, en vérité. On a une équipe et on travaille sur des choses très techniques. On est dans des difficultés. C'est un combat. C'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé dans vos mots. Moi, je dis souvent qu'on est en action. C'est un véritable combat qu'on mène et qu'on mène pour avancer. Et donc, c'est vrai que vous parlez de navette spatiale et j'aime les navettes spatiales, j'aime beaucoup la science-fiction. Mais moi, je compare souvent ça à un bateau, en fait, parce que je vois ces marées et j'ai l'impression qu'il faut garder le cap. Et ça, c'est très important.
C'est vrai que vous aimez la technique, la science-fiction, même la mécanique, Constance Guisset. Un mot peut-être de vous deux, Pierre Gagnère et Constance Guisset, sur la transmission. Je pense quand on a une idée créative, quand on a quelque chose d'intuitif, d'affinitaire comme ça dans l'instant par rapport au dessin d'un objet ou par rapport à l'imagination d'un plat, comment est-ce que ça se transmet au collectif? Ça, c'est quand même un sacré mystère et une sacrée difficulté.
Ah ben voilà, vous avez fait la réponse, c'est mystérieux. D'abord, j'ai pas l'impression qu'on transmet. On transmet pas son talent. On transmet pas ce qui fait notre intimité profonde et notre force et notre force et nos faiblesses. On a des gens qui ça, enfin, je sais pas comment on vit ça vous, mais moi, finalement, les gens qui m'accompagnent, je les ai pas choisis, hein. C'est eux qui sont venus à moi. Et ces gens, ils arrivent à créer leur propre, leur, leur propre vie, ils arrivent à construire leur propre destin, pas dans mon ombre, à côté de moi. Moi, j'ai, bon, ben, l'âge, ce que j'ai vécu avant, fait que un peu comme un brise-glace, je romps la glace tout le temps, et puis, il y a des gens qui sont autour, et puis, il y a des gens qui partent, qui reviennent jamais, qui font leur vie. Et puis, il y a des gens qui partent parce qu'ils sont pas bons, parce qu'ils perdent pied. Et puis, il y a des gens qui perdent pied parce qu'ils sont pas courageux, parce qu'ils comprennent pas ce qu'on veut vivre. Mais le talent ne se transmet pas. Et je crois plutôt qu'on partage des choses avec les gens, des émotions, des instants comme ça de vie, parce que on travaille beaucoup et on vit longtemps ensemble. Moi, je vis plus avec mes équipes qu'avec ma famille. Et ça dure depuis 45 ans, plus de 40 ans. Hein, voilà. C'est le talent, moi, j'y croyais pas à ça. Mais ça, c'est un don du ciel. Et ce don du ciel, il faut pas le gâcher. Ça, c'est tout l'enjeu que nous avons, enfin, toute la responsabilité que l'on a lorsqu'on a ce petit truc. Et qu'on a la chance d'avoir trouvé comment exprimer ce petit truc. Vous, c'est ça, moi, c'est ça.
Constance Guitté.
C'est vrai. Alors, j'ai aussi l'impression d'être un brise-glace très souvent. voilà, de devoir mener des batailles et d'avoir avec moi des personnes qui m'accompagnent. J'ai l'impression, moi, que j'arrive à transmettre par touche. C'est-à-dire que je suis comme vous, je vis plus de temps avec mon équipe qu'avec ma famille. Et j'ai l'impression qu'ils me comprennent peut-être mieux que quiconque. Si quelqu'un devait me faire un cadeau, il faudrait s'adresser à mon équipe pour savoir ce qu'il faudrait m'offrir. Parce que je pense qu'ils sauraient devancer presque parfois mes désirs, ou parfois ils sont surpris. Mais du coup, il y a comme un ensemble comme ça de mots, d'usages. J'imagine que pour vous, c'est pareil avec des réflexes qu'on peut avoir. Moi, il y a des formes, des dessins. Parfois, il suffit juste que je fasse un dessin juste avec mes mains. J'ai même pas besoin d'utiliser mon crayon. Ou que je fasse référence à une image. Je parle beaucoup en métaphore et donc je dis ben voilà, c'est comme la fin de la fleur X, et du coup tout le monde comprend. Même au téléphone, je suis capable de transmettre à quelqu'un qui m'envoie un dessin, qui me dit qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est vers ça qu'on va, et je lui dis non, j'imagine plutôt autre chose, et je lui donne une référence et elle comprend tout de suite, et ce qui revient exactement ce que j'avais pensé, mais c'est augmenté par cette personne.
Absolument.
Et alors, on l'entend, vous menez tous deux, Constance Guisset, Pierre Gagnère, des batailles, vous êtes des brise-glaces, vous êtes au fond des créateurs solitaires, mais à la fin, comme à la fin de la fleur, eh bien c'est la tendresse qui est au rendez-vous dans les assiettes ou dans l'assiette elle-même.
Ping-pong, c'est sur France Culture.
Composition des quatre saisons de Vivaldi par Max Richter à l'instant. Non seulement c'est un travail de relecture d'un classique qui pourrait s'apparenter à celui d'un chef sur une recette antique. Vous, Pierre Gagnère, c'est l'occasion de vous poser cette question. Vous publiez La cuisine des cinq saisons aux éditions Solar. Pourquoi vous en trouvez cinq, vous, de saisons?
C'est grâce à un homme qui vient de se faire virer, Philippe Meyer. Vous connaissez sans doute, qui était...
France Culture,
oui.
Esprit public.
Voilà. Et il a écrit un livre il y a une dizaine d'années, et qui était un livre sur Paris, et il parlait de la cinquième saison. Pour lui, la cinquième saison, c'était la rentrée scolaire, où on prend des résolutions, voilà. Et en cuisine, la cinquième saison, c'est ce moment un peu incertain entre... Alors bien sûr, aujourd'hui les choses changent avec parce que nous on est en première ligne avec le changement climatique évidemment, mais il y a un moment où le printemps n'est pas là, et il est quand même là tout en n'étant pas là, et il se passe quelque chose d'indicible dans la lumière, dans l'air, dans la façon dont les gens s'habillent. il y a un petit truc qui se passe, et puis les produits, on est encore dans les choux, dans les raves, dans les topinambours, dans les salsifis, et nous cuisiniers, il faut trouver le petit truc qui va accompagner ce prémisse de printemps. Voilà, donc j'ai appelé ça la cinquième saison. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, parce que c'est un peu mental tout ça, hein. mais pas que mental.
Vous êtes
quand
sur
même.
France Culture, voilà. Peut-être vous le permettre.
Mais précisément, cette cinquième saison, elle est à la lisière entre la saison pauvre qui est l'hiver pour le cuisinier et cette saison du renouveau que vous essayez de faire surgir.
Ah non, il n'y a pas de saison pauvre pour les cuisiniers. Les cuisiniers, faut pas de pauvre, faut être malin quand on fait de la cuisine. Et de plus en plus malin d'ailleurs. Et moi, comme j'ai commencé dans des conditions très difficiles, j'ai tout de suite appris à cuisiner malin. Non, c'est vraiment un problème de saisonnalité, un problème d'ambiance et puis la terre qui ne peut pas donner le petit pois, le beau pois gourmand, le bel haricot vert. Là on est aujourd'hui le 22 juin, en plus il fait tellement chaud, il y a des fruits incroyables, il y a des tout bon là c'est une saison bénie quoi, tous les légumes verts, enfin tout est très goûteux, très bon, très juteux, très très sensuel, très, alors que l'hiver ben c'est un peu plus, on est près de la terre, il faut
légumes racines,
voilà ouais.
Mais on entend les contradictions qu'il y a entre les saisons, entre les saveurs et les sensations qui sont les vôtres et que vous aimez à marier. Vous ne cachez pas les difficultés que vous avez pu rencontrer ou celles que vous avez toujours en qualité de brise-glace. Vous avez pu dire que jeune apprenti chez Paul Bocuse, vous étiez en prison. Et ce qu'on retrouve à la carte de votre restaurant rue Balzac en ce moment, c'est il y a de l'amertume. Il y a l'amertume de la roquette, du réglisse, des orties, de la moutarde. Et toute cette amertume, au fond, c'est pour parvenir à lui faire dire des choses tendres, puisque vous êtes un tendre.
L'amertume, il faut bien la maîtriser, mais l'amertume, elle accompagne un peu toute ma cuisine tout au long de l'année. J'ai commencé par adorer l'aigre doux. Et l'aigre doux, il était fait pour cacher mes incompétences. Un aigre doux, c'est ni salé ni sucré, ça va le faire.
C'était un petit coup de fumée là. Hop là.
Ah, c'était l'enfumage total, mais c'était bon. Hein. Et puis ça a disparu, puis c'est devenu de l'amertume. Et l'amertume, c'est ce côté juste un tout petit peu grinçant qui suscite la faim, la gourmandise, le plaisir, enfin voilà, et l'amertume elle est aussi l'hiver. Vous avez plein de pamplemousses, il y a toutes les agrumes incroyables. Alors ça c'est partie des choses formidables. Aujourd'hui il y a des gens comme Machès dans le sud qui nous offrent des agrumes qu'il y a 20 ans personne ne connaissait. Alors d'un côté il y a un grand appauvrissement, le gros turbo de 10 kilos n'existe plus, puis il y a des petites choses comme ça qu'on trouvait pas avant, qui grâce à quelques dingues sont sur nos tables, et ça c'est magnifique, ouais. Mais moi je voudrais dire un mot pour dire à quel point pour moi ce que vous faites comme boulot, ça a été important pour moi.
C'est parce pas que, de nous que vous parlez, hein, c'est Constance Guisset,
parle de Constance,
designer.
Parce que moi, je suis fasciné par votre univers, parce que c'est d'abord les réceptacles dans lesquels on pose nos aliments, et puis la beauté que vous créez, elle rend le quotidien plus tendre, hein, plus tendre, plus doux, enfin tous ces mots qui sont des mots un peu ressassés, mais qui sont nos réalités, je pense à tous les deux et aux gens qui créent. Donc, voilà. Mais on peut pas être dans la brutalité, quoi, c'est pas possible.
Exactement.
Oui, et au sein du studio Guisset, d'ailleurs, vous travaillez les couleurs, les formes, un peu comme on peut le faire avec une assiette et comme le fait Pierre Gagnère. Et vous travaillez notamment aussi des formes, des abat-jours chantilly. Donc vous êtes dans une approche peut-être aussi proche de celle de Pierre Gagnère.
Alors c'est vrai que les abat-jours chantilly sont assez sucrés. Mais de façon générale, j'avais écrit un petit manifeste autour des délicatesses délicatesse. Et dans ces délicatesses, je mettais évidemment le respect, l'empathie. Je pense que l'empathie, la douceur aussi en fait partie, le fair play, ce sont des valeurs qu'il faut défendre de façon assez radicale. Je me permets juste de citer quelqu'un qui avait écrit « Aujourd'hui, c'est la délicatesse qui est révolutionnaire ». Et je crois que quand on parlait d'être un brise-glace, c'est parce que derrière, en fait, c'est toute la révolution douce qu'on a envie d'amener. Et on a l'impression de devoir se battre, en fait, pour que le monde soit plus doux, pour que les canapés soient plus confortables, pour que tout à coup, quand vous entrez dans une salle, vous ne voyez pas que des bords tranchants, que des champs qui n'auraient pas été adoucis. Et donc, j'ai aussi beaucoup écrit sur le rond. Pour moi, c'est une forme qui est peut-être pas l'absolu, mais qui, quand même, donne une indication de ce vers quoi on a envie d'aller quand on est un corps humain. Quand on rentre dans une pièce, on a envie d'avoir une sensation agréable, positive. Et je suis très sensible, par exemple, à tout ce qui est dur. Je me sens, même si je ne l'exprime pas, je me sens assez agressée par tout ça. Et c'est vrai que moi, je me bats pour que les choses soient douces, en fait. Je me bats pour cette douceur, c'est très important.
Pierre Gagnin, est-ce qu'on pourrait parler aussi, dans votre approche de la cuisine, d'une forme de résilience, peut-être, qui est proche de la douceur dont parle Constance Guisset? Vous avez évoqué cette faillite en 96. C'est une deuxième naissance que ce restaurant que vous allez fonder. Les gens vont d'ailleurs vous attendre. Votre équipe attend que vous puissiez faire quelque chose et vous rejoint. Et vous avez peut-être, comme ça, réussi à réconcilier un certain nombre de séquences de votre vie, de dureté, de tranchant par la cuisine?
Ah oui, ben clairement, moi, la cuisine, c'était... Moi, je n'aimais pas ça. Hein. Moi, j'étais mis là-dedans par obligation, par ma famille. Et c'est quand j'ai compris que la cuisine était porteur d'émotions, était porteur de sensations joyeuses et douces et nostalgiques, un peu. Moi, je suis... Et puis, le lien... Que crée la table, et là, c'est un moyen incroyable pour se faire aimer, quoi, et pour aimer, et bien sûr pour dire aux gens que je vous aime. Et c'est vrai que je peux dire qu'il y a eu, ça a été plus de 20 ans, 25 ans, peut-être 30 ans, je sais pas, ça a été une thérapie pour moi, la cuisine. Aujourd'hui, c'est vécu de façon plus apaisée, donc la difficulté, elle est ailleurs, mais il n'y a plus cette dureté avec laquelle je vivais ça, quoi. J'étais dans une espèce de monde de solitude. Vraiment, c'était parce qu'il fallait absolument que j'en sorte quelque chose qui ait de l'allure, quoi, qui donne, tout bêtement, donne un sens à ma vie, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, je m'aperçois que ce que j'ai fait, je peux aujourd'hui donner aux autres. Voilà. J'ai la capacité de m'intéresser aux autres, c'est pas que je m'intéressais pas aux autres, mais un jour on m'a dit dans un avion, lorsqu'il y a un problème, on met pas le masque aux enfants ou les femmes, ce sont d'abord les adultes qui prennent le masque pour sauver les autres. Donc voilà, et c'est un peu ce que j'ai fait. Et moi, j'ai deux enfants, je sais pas comment ils me détestent pas. Parce que ma cuisine a été au-dessus de tout. Mon métier a Et encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, ces fêtes se sont plus tranquilles. Mais je disais aux gens, quand on me parlait, j'arrive. J'arrivais jamais. J'étais dans ma cuisine, quoi. J'étais vraiment comme un dingue. Hein. J'ai presque parfois honte quand je me revois. Il y a un film qui avait été fait il y a quelques années par un type qui s'appelle Lacoste, qui s'appelle L'invention de la cuisine. Mais quand je me vois, mais qui c'est ce fou, quoi? Qui c'est ce mec?
Et ça a commencé, vous l'avez dit, Pierre Gagnère, dans l'enfance. Vous avez été conditionné à devenir cuisinier par votre père. Et il se trouve, Constance Guisset, que vous aussi, vos vilains parents vous ont conditionné, puisqu'on dit que vous avez eu votre premier établi à 8 ans, une machine à bois à 11 ans. Sent que l'amertume qu'on évoquait dans la cuisine de Pierre Gagnère, elle remonte toujours avec ses regrets, avec ses scrupules, mais aussi, il sait, vous le savez, Pierre Gagnère, vous savez, la sublimer dans la cuisine que vous faites. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une pointe d'amertume dans votre travail, peut-être dans les matières que vous sublimez à votre façon, dans cette empathie, cette générosité et les formes qui arrivent au bout de la production des objets?
Alors, je vais revenir sur une chose. En fait, moi, j'étais conditionnée pour être complètement quelqu'un d'autre. Donc, j'ai eu un établi quand j'avais 8 ans. Mon grand-père m'avait offert ça parce que c'était mon choix. J'ai eu une scie à chantourner quand j'avais 11 ans, que j'ai toujours. Et c'était mon choix. Je suis allée dans un salon de l'invention et j'ai choisi ça. C'était pour une petite fille de 11 ans, quelque chose chose de très étrange. Et au contraire, mes parents m'ont beaucoup poussée à faire d'autres études. Et donc, j'ai fait d'autres études, en fait, avant de devenir designer.
De commerce.
Voilà, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Sciences Po, j'ai voyagé, j'ai travaillé à l'étranger. Et je suis revenue. Et c'est au moment où j'étais mûre pour changer, au moment où ma décision s'exprimait réellement, que j'ai été en capacité de dire, mais en fait, non, je veux pas faire ça. Je veux être vraiment dans la création. Évidemment, je faisais de la sculpture, de la calligraphie, des tas de choses le soir, mais ça ne suffisait pas.
Vous tourniez autour.
Exactement, je tournais autour. Et à partir du moment surtout où j'étais privée de liberté dans mon travail, là, je me suis dit, c'est pas possible. Je dois retrouver ma liberté et je dois trouver ma liberté de création et faire ce que je veux de ma vie. Et donc là, je me suis interrogée, est-ce que je veux être artiste ou designer ? Et j'ai répondu designer parce que j'avais cette appétence technique, j'avais cette appétence du matériau, que j'aime ça, j'aime bricoler, j'aime fabriquer. Voilà, quand j'ai des amis, bon, bah, quand elles n'arrivent pas à planter des clous, bah, elles m'appellent et voilà, je viens avec la perceuse et je suis la personne qui fait ça. Et c'est vrai que j'ai cette appétence. Donc j'étais destinée complètement à autre chose et au contraire, c'est plus dans cette lutte-là contre pourquoi j'étais destinée que je trouve parfois la force de le faire aujourd'hui. Parce que quand on change de voie, bah, on a toujours un sentiment au début, en tout cas, de ne pas être exactement à sa place. Et donc on fait tout pour prouver le contraire et on fait tout pour montrer que non, la création est plus forte, etc. et qu'on est créateur. Le nombre de personnes qui m'ont dit quand j'ai commencé que j'avais fait une école de commerce, que je pensais que la création allait être facile, etc. Est incommensurable en fait. Aujourd'hui, je n'y pense même plus. Je ne sais même plus que j'ai fait une école de commerce. Enfin, tout ça est très loin derrière moi. Mais j'ai gardé de cette époque où on travaillait beaucoup, on étudiait beaucoup, une volonté, un acharnement, une capacité de travail très importante. Et là, je rejoins tout à fait Pierre Gagnaire. Je suis obsédée par mon travail. J'y pense tout le temps. Alors, évidemment, j'essaie.
Vous allez le regretter si on suit Pierre Gagnaire.
Non, mais j'essaie aujourd'hui de quand même de ménager mes vies. J'ai aussi deux enfants et je pense aussi que c'est une immense richesse. Et j'ai une très grande joie à créer et j'essaye aussi de leur transmettre ça, j'essaye de les amener sur mes lieux de montage, j'essaye de leur montrer ce que je fais, j'essaye de faire en sorte qu'ils comprennent pourquoi je ne suis pas là quand je ne suis pas là, parce que c'est pas si facile et j'ai la chance d'avoir des enfants qui effectivement entendent, j'imagine comme vous, si vous dites qu'ils ne vous détestent pas, c'est que voilà, mais c'est quelque chose de très important aussi d'arriver à transmettre et je vous rejoins aussi sur une autre chose, il y a des moments où on peut transmettre et des moments où on ne peut pas transmettre, par moments j'enseigne en fait, je peux enseigner pendant une année. Je donne, mais par moment, on me demande de continuer et je dis non, en fait. Là, j'ai besoin de quelques années où je suis centrée sur moi, sur mon travail, sur la recherche. Je dois aller lire des choses, voir des expositions, voyager, faire plein de choses, créer, être obsédée par ça. Et par moment, tout à coup, il y a comme un relâchement, c'est comme une respiration. J'inspire et parfois j'expire et la transmission fait partie de cette expiration. Et ça, je vous rejoins complètement, mais ces moments de solitude sont très difficiles à expliquer. Très souvent, on me dit, mais tu veux pas venir là. Et en fait, non, j'ai envie d'être seule. Et ça, le dire, quand on est un animal un peu social quand même, c'est pas facile, en fait. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas les gens, et vous aviez raison quand vous le disiez, c'est pas parce qu'on n'aime pas les gens, c'est juste parce que là, la création est une impérieuse nécessité. Absolument. C'est tout à coup, on y est, c'est là-dedans, c'est en train de sortir, et il n'est pas question une seconde de se laisser détourner de son chemin. Et c'est vrai que je
partage. De rater ce kairos, en fait, cet instant clé.
Cet instant clé. Alors, on peut aussi le reporter. Moi, il m'arrive de faire ça. Moi, j'ai passé ma vie en pension et j'ai été capable de me concentrer dans le bruit et d'être, voilà, j'arrive à faire ces zones et à le mettre de côté et à le garder pour après. Mais c'est vrai que j'ai des moments comme ça où j'explose, où c'est, tout à coup, c'est maintenant. Et là, il n'est pas question de ménager ce temps.
Pierre Gagnère, à l'instant, Constance Guisset parle aussi de ses expositions, de ses lectures, de ses voyages nécessaires à la composition, à l'expiration créative. Vous, c'est dans l'étoile de Soulage, entre autres, c'est dans la musique jazz. Où est-ce que vous allez justement inspirer avant d'expirer, Pierre Gagnère ? Un beau silence de France Culture, officiel.
Je peux pas... C'est une espèce de... Je dis pas que je suis pas insensible, bien sûr, au monde qui tourne, hein, autour de moi, mais c'est vraiment une espèce de dialogue intérieur, quoi. Je suis... par exemple, j'ai pas l'impression de m'enrichir en voyageant, par exemple. Les expos, j'en vois très peu. J'ai pas le temps. C'est un peu bizarre comment je vis ça, moi. Après les mots que vous avez employés, évidemment, on est pris par des, en tant qu'entrepreneur, hein, parce que je crois qu'on fait le même métier avec les mêmes, un peu, on n'est pas que des artistes, hein, on a des boutiques à faire tourner, et ces boutiques, pour qu'elles tournent, elles reposent sur ce qui sont les codes d'une entreprise, Mais évidemment, c'est là qu'on est, on est pris au piège et au bon piège. Quand on a, parce qu'on sent bien que si on veut durer et que si on veut être honnête, il y a des moments où on peut pas se permettre d'aller voir ailleurs ce qui se passe. On doit être avec soi-même. Mais moi, le avec soi-même, moi, il est très, très, il est presque continu, quoi. Oui. J'ai pas de respiration tellement parce que nous, on est toujours, d'abord, c'est des lieux qui fonctionnent tous les jours. Deux fois par jour. Donc c'est une espèce de course contre la montre perpétuelle.
Et vous avez quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui vous nourrit, parce que c'est vrai qu'on avait vu dans...
Vous avez...
Évidemment, d'interviews, etc.
Non, mais évidemment. Évidemment.
Passion pour Soulages, Roscoe, Pollock...
Évidemment, et puis des livres, les gens avec qui je vis, enfin, voilà, j'ai une femme qui me tient par le bras, qui elle-même écrit, mais qui elle, pour le coup, est très sociale, plus que moi. Donc, bien sûr.
Il y a des objets dans ce qui peut vous inspirer. Est-ce que vous avez en cuisine un objet fétiche ou un objet qui mériterait d'être designé, d'être redesigné, repensé par quelqu'un comme Constance Guisset?
Vous avez fait des trucs avec Patrick Gion, par exemple, designer.
Oui, oui. Non, mais moi, j'adore cet univers. Enfin, que ce soit Gion, Olivier Gagnère, François Baucher, que j'aime beaucoup, Patrick Join, enfin, il y a qui aujourd'hui d'ailleurs sont des gens très connus et des gens qui ont des parcours extraordinaires. Par exemple, l'objet qui aujourd'hui qui m'accompagne depuis des années, c'est un cahier, Mouji, un crayon, un taille-crayon et une gomme. Et cette gomme, elle est incroyable. Elle efface votre passé. Voilà. Et je trouve le crayon, la gomme, c'est merveilleux parce que vous pouvez tout écrire, tout dire. Ça va pas, on efface. Hop. Comme une vague sur la plage. Et ça, c'est très jouissif d'écrire et savoir que ce qu'on écrit, finalement, ça n'a pas d'importance puisqu'on va pouvoir, effacer. Ma cuisine, je l'écris. Elle est dans ma tête, quoi. Alors, et je goûte pas tellement, en plus, pas tant que ça. Non, mais je vis, quoi, voilà. Mais moi, mon ressort, c'est, j'ai une passion pour les gens, voilà. Moi, les gens, à pleurer, quoi. Il y a les rencontres quotidiennes, mais c'est du bonheur, quoi, voilà. Et puis, savoir s'intéresser à tout le monde, quoi. Et chacun a... apporte quelque... Et ces gens, je leur dis merci tous les jours.
Et alors, cette cuisine que vous écrivez, on va en entendre un aperçu.
L'insolite, Carabineros retient tandoori. Courbouillon brûlant de morue au piment de Guernica, coco chasse, tripes, chorizo et piquillos, épinards farcis de chair de tourteau, radis blanc, râpé au miso, feuilles de Granny Smith, infusion d'algues kombu, maquis de dorade royale et melon d'eau, chaud froid de cœur de cabillaud demi-deuil, point virgule, navet burène. J'adore les points virgules.
Charlie Parker et Pierre Gagnère. Vous aimez marier la carpe et le lapin, dites-vous.
Oui.
Là, on vous a marié avec Charlie, avec Bird, avec un oiseau. Il y a ce point-virgule, cet amour du point-virgule, mais il y a aussi toutes les langues qu'on entend dans ce que vous venez de nous lire. Il y a de l'anglais, il y a du japonais, il y a de l'espagnol, il y a Picasso qui est pas loin avec le piment de Guernica, Pierre Gagnère. Vous le dites, ce qui vous a fait finalement, après des années d'apprentissage douloureuses, aimer et choisir pour de bon passionnément la cuisine, c'est que ça vous permettait de raconter des histoires, et ce sont donc les mots. Proposez-nous peut-être à l'instant qu'on salive des noms de produits, de poissons rares, de variétés de légumes ou de viande.
Oui, puis la façon dont c'est Donc c'est l'écrit, quoi, vous voyez. Le turbo, dame de gros turbo, poché doucement à l'arrêt, dans un beurre fondu aux herbes du moment. On lève alors les filets, que l'on termine quelques instants, au four sur un lit de speck. Voilà. Juste tapé, frotté de saté, saisi à salamandre, puis servi sur un toast chip de la ribérique, langoustine. Donc donc je prends un grand soin à écrire, et puis, j'essaye que les mots, que ces appellations soient des recettes. Alors les gens qui me rejoignent, ils comprennent pas, quoi. Ils veulent des fiches techniques. Bon, il y a pas de fiches techniques.
Ils ont des poèmes.
Il y a des. Je suis comme vous, dire que je suis au téléphone et je mentalement, j'exprime avec des mots, avec des gestes. Comment je. Vous voyez, par exemple, je déteste la nourriture en monticule parce que ce geste, il est fermé quand vous mettez la main comme ça à l'envers. Quand vous mettez la main comme ça, ça change tout. Vous offrez quelque chose.
La main ouverte.
Donc moi, j'aime bien toujours le petit creux, la petite vague, la petite chose féminine, effectivement, la petite rondeur. Là.
Vous allez fâcher Constance Gisset sur
les féminines. Mais moi, je revendique ma part de féminité, hein. Complètement. Hein. Je passais pour un bizarre parce que j'avais pas les codes du cuisinier classique quand j'ai démarré. Parce que je ressentais une forme de brutalité, de vulgarité dans les assiettes. Voilà. Et c'était le combat, c'était de rendre la cuisine autre chose que de la cuisine, autre chose que la nourriture. Voilà. La nourriture ne remplit pas que l'estomac, elle donne aussi à penser.
D'ailleurs, c'est Jean-François Habert qui, en 1977, critique culinaire, oui. va, par les mots, oui. vous faire oui. naître, vous allez devenir cet écrivain raconteur d'assiettes oui. Que vous êtes aujourd'hui, Pierre Gagnaire. Donc, il va décrire une pochette de Saint-Pierre au poivron doux oui. comme un luxe de fragrance, des goûts déliés, subtils, sans prégnance excessive, qui exprimait un art véritable. En regardant au plus profond de la pochette, on devinait l'avenir de Pierre Gagnaire.
77, hein.
Ouais. On lisait la tendresse du cuisinier dans ses poivrons. En 77, il voit tout ça. C'est presque un mythe à la Ratatouille, cette histoire de Jean-François Habert.
Ah ben, c'est un. J'ai aimé cet homme comme un frère. Hein. Ce type-là, il avait une critique dans Lyon Poche. Et c'était ce type. Il y avait chaque semaine une critique. Une, deux, trois, quatre casseroles. Voilà. Et c'est le premier qui a osé désinguer un peu les stars Rhône-Alpine. Et lorsqu'il est venu, alors moi, le travail de résilience avait déjà commencé quelques années avant, puisque moi j'ai commencé à travailler en 65, 66. Et c'est en 77, 10 ans après, donc j'étais déjà installé, j'avais repris l'affaire de mon père, et donc je savais déjà que la cuisine, on pouvait raconter des choses. Et ce type-là, mais pour moi, c'est pas, par rapport à vous, c'est pas un monde enfoui. C'est dans mon épaule, ça, dans ma tête, ce moment-là, ça m'accompagne tout le temps. Et la façon dont il a décrit ce plat, je me dis non, mais bon Dieu, c'est ça que tu veux raconter, c'est ça. La cuisine, ça peut être ça. Et alors moi, ça m'a complètement libéré.
Et c'est vrai que quand vous dites que les plats peuvent avoir une forme de vulgarité, moi c'est un mot que j'utilise extrêmement souvent quand oui. je parle des objets qui ne me plaisent pas. Je les trouve vulgaires. Je trouve qu'ils sont offensant presque oui. et je dis souvent des objets que je veux pas vivre dans un monde d'outils en fait pour moi un objet doit nous accompagner doit nous amener ailleurs et vous le dites aussi c'est la cuisine ce n'est pas que pour manger et c'est vrai que moi c'est vraiment ce que je ressens quand je dessine une chaise quand je dessine un objet il doit nous emmener ailleurs j'utilise beaucoup le terme ravissement parce que je trouve que c'est un très beau mot qui dit à la fois que l'œil est séduit mais qu'en même temps on est emporté ailleurs on est comme kidnappé et c'est quelque chose que je cherche énormément à faire quand je dessine un objet voilà juste emmener ailleurs et créer des sensations, en fait.
Mais si Pierre Gagnaire était révolté par la vulgarité, par la brutalité des assiettes, dit-il, est-ce que vous pourriez nous dire un mot, nous raconter à votre façon, Constance Gisset, par exemple, l'assiette, votre assiette, Canova, qui n'est ni brutale ni vulgaire ?
Alors, c'est vrai que j'ai fait un objet que j'ai appelé Canova, parce que j'étais fortement fascinée par tous les mouvements figés. Tout mon travail est très inspiré par le mouvement. Tout à l'heure, on parlait d'inspiration. Moi, je pense que le mouvement en général, le mouvement des corps, le mouvement dans l'espace. Souvent, quand je dessine un objet, je fais des gestes avec ma main et donc j'explique comme ça avec ces gestes.
Vous mettez comme Pierre Gagnère.
Voilà, mais c'est vrai, je fais tout le temps ça. Et donc, le mouvement m'inspire énormément. Et le mouvement figé est quelque chose qui me fascine. Donc, par définition, les sculptures antiques, par exemple. Moi, je suis fascinée par ces drapés, voilà, ces cheveux. Je me dis, mais comment transmettre cette sensualité à travers un objet qui serait fermé? On a envie de voir un froufoutement de tissu quand on voit une sculpture, mais on le ressent, on est là, on a l'impression qu'on va toucher cet objet et qu'il est vivant. Et cette vie dans les objets, en fait, et on regarde les définitions du beau, souvent il y a l'idée de la vie dans les objets et dans les sculptures aussi. C'est ça aussi que j'ai envie de transmettre. Et dans les sculptures qui sont pas antiques, mais inspirées des antiques, il y a évidemment Canova. Et j'aime beaucoup cet artiste. Et j'ai été frappée par la sculpture d'Apolline Borghèse, voilà, qui est allongée comme ça sur son coussin. Je me dis, mais ce coussin, mais quelle sensualité, comment arriver à transmettre cette sensualité? Et donc j'ai commencé à travailler autour d'un plat coussin. Sauf que il y a une autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'abstraction. Je veux dire, j'ai pas envie de faire un plat qui a l'air d'un coussin, voilà, je suis pas en train de faire un petit coussinet. Et donc je me suis dit, il faut arriver à lisser cet objet, et donc on l'a fait à la main. C'est vraiment un objet, donc il y a des choses qu'on fait sur l'ordinateur, évidemment, on travaille en 3D, on a des imprimantes 3D, etc. Mais aussi, il y a une partie chez moi qui est en recherche de forme à la main. Et donc, soit on sculpte sur du plâtre et après, on va le bouler en céramique. Et donc là, on a fait à la main, voilà, ce coussin. Du coup, on l'a lissé jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu à mi-chemin entre, je dirais, un cheese-nan, pardon si c'est un petit peu vulgaire, mais un cheese-nan, une pizza soufflée, quelque chose.
Une petite crêpe indienne au fromage.
Voilà, une petite crêpe ou une pâte de pizza. Voilà, quelque chose de juste gonflé. En même temps, un coussin sur lequel on a envie de se poser et avec lequel, du coup, on peut jouer avec les couleurs. C'est-à-dire que tout à coup, c'est rose, c'est un chewing-gum écrasé. C'est vert, on a l'impression d'être dans la nature et qu'on va poser sa tête dessus. C'est blanc, c'est vraiment un coussin. Et donc, on peut comme ça transformer la perception de l'objet. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ce travail léger de l'illusion, qu'est-ce que c'est? Et est-ce qu'on a envie de toucher? Et moi, j'aime qu'on ait envie de toucher. Et le réflexe de chacun devant ce plat, qui n'est pas ni symétrique, ni classique, etc., c'est voilà, c'est tout de suite, on a envie de le toucher, on a envie de se l'approprier. Et c'est ça que je cherche. 1, 2, 3.
Eh bien, on va continuer à chercher et peut-être à trouver, et on aura envie de toucher à la radio dans la deuxième partie de notre émission, avec vous toujours, Constance Guisset et Pierre Gagnère.
Ping-pong. La culture sans limite.
Je vais justement vous demander de visualiser un objet, une table, précisément une table de mixage, comme un hôtel, une musicienne électro comme une sainte. Tel est le tableau que nous propose l'artiste plasticienne formée aux Beaux-Arts, Irène Dresel, devant des assiettes de faïence bucolique, derrière une composition florale, et tout autour, bien sûr, entourée de bougies, on la découvre, dans son église profane, dans ce clip Rita, bercée de flûtes chamaniques et d'une spiritualité toute technoïde. Irène Dresel est une artiste complète, une apparition qui console nos âmes désespérées dans un mini-album, Rita.
Lisna aussi sain, Erisetan, Sarkraloïd, de Drinet Pomoop, Atirotin, Stoffé de Tan, Kertoffe, de Lesoni, Sesretin, Tansi, Hubertoffe, de Yuba, Sarkral Toute, Tsirta, Sampsi, Deroser, Tinvide, Dredisopet, Leisoudreb, Novernon, Iram, Chéré, Yvouvé, Résisiné, Sèvres, Kirksartes, Arome, Desson, Kedilé, Diva, Sesson, Bonker, Louvé, Vasouvi, Lequel, ce serait bien Raoul Foudre et Nidras, quel homme, enfant et on est sable sur le d'air de votre vie, ce sera mon cœur et ma vie. On soupe et dit à Sandra, vous parlez que ce trou, un musée.
on peut, avec délicatesse, remuer tout un dance floor de Tuffer, pardon pour toutes ces appellations, grâce à Irène Dresel, à l'instant, dont le premier mini-album sera publié le 23 juin, à savoir demain, sur l'excellent label In Fine.
Qui dois-je annoncer ?
Ping-pong.
Il se déhanche. Il n'a pas réellement bon genre. Et vous vous plaisez ici ?
Je n'ai jamais été certain qu'il fût vraiment bien avec moi.
Oui, je veux dire, bien installé. Comfortable, comme disent les cousins anglais.
Je suis Vertigo. C'est moi, Hitchcockienne. Certains me prennent pour un ventilateur. Parfois, on me pose à l'envers. J'aime assez la conversation entre poufs. Ils ont le même plan de vie. Accueillir un seul fessier.
Mes enfants, je suis brisée.
N'écoutez pas trop ce qu'elle dit. Je crains qu'elle n'ait plus toute sa tête.
Ça y est. Il va vous faire le coup de l'estampille.
On appelle ça des capes, il me semble. Sous leur air fantomatique, elles ont l'air de savoir garder religieusement un secret.
J'ai une certitude. Nous nous ressemblons. Dans 1000 ans, je me demande même si les experts seront capables de dire qui de nous deux est le plus récent.
Une symphonie, un ballet orchestré à la baguette par Constance Guisset, c'est l'exposition spectacle que vous proposez au public, les formes savantes design au musée, à découvrir jusqu'au 17 septembre au musée Fabre à Montpellier. Vous avez investi, Constance Guisset, vous avez réveillé 10 pièces de 10 salles de l'hôtel Cabrières de Sabatier d'Espéran, où vous faites dialoguer au sens propre, comme on l'a entendu, et au sens figuré, les pensionnaires permanents, les objets de ce lieu et vos créations contemporaines. On entendait passer Vertigo, il était question de pouf aussi, on sait que vous avez signé en particulier les poufs Moulin à Vent, Windmills, qui ont aussi, qui dialoguent avec ce lustre Vertigo. Vous abolissez dans cette exposition, les frontières entre le spectacle et l'exposition, justement, et il y a quelque chose d'espiègle, ça c'est dans votre note d'intention, mais ce qui est presque inquiétant d'un point de vue psychiatrique, c'est qu'on le comprend, les objets vous parlent. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être récemment ce qu'a pu vous dire un objet ?
Alors justement, les objets parlent, mais les objets sont des comédiens. Ici, ils vous disent quelque chose et ailleurs, ils vous disent autre chose. C'est ça qui était très intéressant justement dans cette exposition. Quand j'ai été invitée par Florence Sudovitz à faire une installation à l'hôtel Sabatier d'Espéran, j'ai vu le lieu, j'ai vu les correspondances entre les typologies anciennes et mes typologies, les typologies contemporaines. Je me suis dit, mais au final, nous faisons les mêmes tables, les mêmes hauteurs de table, les mêmes pieds centraux qui nous permettent de ne pas nous cogner les jambes. Et en même temps, j'ai vu les différences, j'ai vu l'industrie qui avait pris le relais sur l'artisanat. J'ai vu aussi l'artisanat qui était encore là et qui pouvait parler à l'artisanat plus ancien. J'ai vu les transformations des lampes 19e et je me suis dit, que se diraient ces objets s'ils étaient ensemble ? Souvent, quand on fait des scénographies, on dit toujours, on va mettre en regard les objets, on va les faire dialoguer. Voilà, ça c'est un peu un dada de scénographe et je me suis dit, bah, on va le faire pour de vrai. Voilà, on va faire une exposition qui va être accessible à la fois pour les enfants, parce que pour eux c'est un peu comme la Belle et la Bête. Voilà, c'est comme la théière qui parle à la commode. Donc là, les lampes se parle. Et en même temps, on va faire une exposition érudite, puisque donc j'ai demandé à des acolytes, des complices, donc Adrien Goethe qui est écrivain, Frédéric Dassas qui est conservateur
de la poésie, en
voilà, et qui est conservateur et qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, qui est conservateur au Louvre, Frédéric Dassas, Chloé Pitiot qui est conservateur au Centre Pompidou, de travailler avec moi. Et donc certains ont écrit les dialogues, d'autres ont écrit les didascalies, etc. Et on a orchestré ça très rapidement avec beaucoup de joie et d'amitié. Et c'est pour ça aussi que ça reste un petit peu amusant. L'idée, c'était de que les objets se disent, voilà, mais de quoi tu es fait, mais pourquoi on est comme ça et qu'est-ce qu'on va devenir. Et à travers ces dialogues, on questionne l'idée même de la collection. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une collection aujourd'hui ? Moi, j'ai des objets qui sont dans les collections nationales. Certains des objets, Sabatier d'Espéran, sont dans les collections aussi. Qu'est-ce que ces objets vont devenir dans 3000 ans ? C'est une question que je me pose très souvent. J'avais déjà demandé à Adrien Goethe de faire un texte, d'imaginer qu'il était un archéologue qui découvrait mes objets 3000 ans plus tard. Je me dis, mais qu'est-ce que ces objets objets vont devenir, quel sens ça fait de les garder. Moi, je crois beaucoup que le temps balaye les choses. Et je crois beaucoup que finalement, et bien sûr, j'ai conscience que mes objets peuvent être moins précieux que d'autres objets. Et je le dis très souvent, mes objets dans l'exposition se plaignent et disent « Mais regarde, toi, tu as été parfaitement fait. Moi, j'ai été fait pour ma fonction. C'est la fonction qui a primé sur ma forme. »
Vertigo se plaint dans un monologue, un soliloque, d'être incomprise, d'être prise pour une araignée alors qu'elle a un plafond vertigineux hitchcockien.
Voilà, mais parce que les objets se plaignent un petit peu, parce qu'on aime bien les entendre se plaindre. Parfois, ils crânent un peu aussi, et ça fait du bien. Ils se draguent, enfin, ils vivent nos vies.
Oui, il y a des vitrines qui...
voilà, des vitrines qui se font de la lèche. Voilà, tout ça, bon, tout est très amusant. Et en même temps, c'est très lettré, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de références à l'histoire de l'art. Il y en a qui disent, mais regarde, toi, tu as une vie sans mode d'emploi. Enfin, voilà, donc c'est des références aussi littéraires. Enfin, il y a énormément de choses dans cette exposition qu'on peut ne pas comprendre. On peut passer complètement à côté de ces références-là, et en même temps, prendre un plaisir fou. Et c'est ça que j'ai voulu faire, c'est qu'on prenne, enfin, c'est faire en sorte que les personnes qui visitent l'exposition prennent du plaisir et apprennent des choses en même temps.
On rappelle que le théâtre et le spectacle vivant ne vous est pas étranger de par vos travaux de scénographe, notamment aux côtés du chorégraphe Angelin Prel-Jocage. On peut voir vos œuvres dans la fresque qui tourne en ce moment. Mais si on se plonge dans l'histoire, justement, les Despoux, ce sont ceux qui, dans cet hôtel, vont faire décorer les choses par des tapissiers, des meubliers, selon l'expression fin 19e, début 20e. Et ça tourne autour de cette idée de théâtre des objets, bien sûr, parce qu'ils dialoguent, mais de théâtre des objets par ce qu'on veut montrer par eux, par la représentation. Il y a une thèse donc sur théâtre des objets, espace privé, culture matérielle et identité sociale, à Paris 1830-1914 de Manuel Chapuis, qui est à la base aussi de ce dialogue. Donc comment est-ce qu'en tant que designer, on réfléchit à ce jeu de théâtre que vont avoir les gens avec vos objets et à ce qu'ils vont vouloir raconter, performer d'eux-mêmes, Constance Guiffet?
Alors, un designer, bon, quand il crée avec plaisir aussi. Et moi, j'ai eu un plaisir très malin, très espiègle à faire cette pièce de théâtre. Quand je pense à un objet, je ne le pense pas forcément dans une pièce comme un objet qui est destiné à être montré. Je le pense en tant que tel. Je pense aussi qu'il va après s'intégrer dans un environnement que je ne pourrais pas mesurer, prévoir. Et du coup, je fais toujours en sorte qu'il y ait une forme d'harmonie possible avec l'environnement futur. Je considère que l'objet, au moment où il est sorti de mon crayon, alors il sort de mon crayon, puis en fait après il met 2 ans, 3 ans à se faire, il faut travailler avec l'éditeur, avec le fabricant, penser le transport, etc. Mais au moment où il est sorti, au moment où il est édité, là, cet objet m'a échappé et il appartient aux gens qui l'achètent et qui vivent avec. Et je suis toujours très touchée quand les gens me disent qu'ils apprécient de vivre avec les objets, parce que c'est à ça qu'ils sont destinés, à vivre avec les personnes et avec d'autres objets aussi, finalement. Je veux dire, quand vous ne vous refaites pas un ensemble complet, Constance Guisset, et Dieu merci, voilà, vous allez mettre peut-être un objet dans un autre ensemble, et ça c'est un collage, en fait, c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui, et c'est un collage qui est très naturel et qui permet de faire respirer les objets.
Pierre Gagnaire, on l'entend, les objets imaginés, conçus par Constance Guisset finissent par vivre leur vie propre chez nous, avec nous. Est-ce qu'on peut dire, parce que ce qui m'est venu, c'est me demander quand vous avez, avec vos mots, comme on l'a entendu, imaginé et donné vie à une recette, à un plat, est-ce que quand il est dans l'assiette, ce plat se met à vous parler en retour ?
Il me remercie.
Et je vous le entendez la betterave.
Et je le remercie. Non mais, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que moi, lorsque j'ai eu mes problèmes en 1996, j'ai tout perdu.
Oui, vous aviez aussi un hôtel particulier qui était un grand restaurant étoilé.
C'était un bel endroit.
Qui était saisi. On a tout saisi.
Et j'ai demandé 2 choses. Vous voyez, j'avais des tableaux, j'avais des choses intéressantes, mais... Deux choses, ces 2 objets de François Baucher, justement. C'était un banc rouge, magnifique, et un confiturier, un vieux poirier centenaire. Malheureusement, le banc, d'ailleurs, il a brûlé. Je l'ai fait rénover, mais ce banc, il est mort. Il est mort parce qu'il a brûlé. Et ce banc, je veux m'en débarrasser. Je peux plus le voir. Alors que j'adorais cet objet. Et puis le confiturier qui est au restaurant, toujours là. Et ces objets, eh ben, c'était les 2 symboles de mon délire, de mes années 90, quoi. Mais pas un délire bête, c'est un délire positif, un délire qui me permettait de j'ai travaillé avec François Seigneur, qui avait fait un espèce de cube virtuel, enfin. Et la chance que j'ai dans mon métier, au-delà de l'assiette, qu'on remplit bien ou mal, c'est tout ce qui va autour. Et ça, c'est la chance qu'on a. C'est-à-dire qu'on est à la conjonction de plein de métiers.
Vous faites du théâtre dans l'assiette, Pierre Gagnaire. Ping-pong. C'est presque fini. Oh, désolé.
On a l'impression de devoir se battre, en fait, pour que les canapés soient plus confortables.
C'est mystérieux.
Donc là, les lampes se parlent.
C'est un peu bizarre comment je vis ça, moi.
Aujourd'hui, c'est la délicatesse qui est révolutionnaire.
C'est du bonheur, quoi.
Et vous aussi, Constance Guisset, Pierre Gagnaire, vous parlez autrement qu'avec nous, puisque c'était dans la tête de Thomas Beau, notre réalisateur. Merci beaucoup à tous deux, Constance Guisset. Donc cette exposition parlante, émouvante, Les Formes Savantes, c'est à découvrir donc au Musée Fabre à Montpellier jusqu'au 17 septembre. Il y a ce catalogue aussi édité par Fabre et Snuck qui l'accompagne. Vous évoquiez vos créations suisses, Constance Guisset Studio, c'est encore un autre livre, Pierre Gagnaire. Vous, le livre dont on a parlé ce soir, c'est la réédition aux éditions Solar de la cuisine des 5 saisons de Pierre Gagnaire, 105 recettes simples et créatives.
Le ping-pong est une délicatesse radiophonique qui se provoque en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction, Aïssette Wendoy, Jeanne Aléos, Seam Boutata et Anna Baron. À la réalisation, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Élise Leu et Jacques Azubert.
Demain, retrouvez-nous en direct et en public à la salle Sénéchal à Toulouse dans le cadre du Marathon des mots avec Zoé Valdès et la comédienne Kiyage Kagame. Et on vous donne rendez-vous dès 17h pour une masterclass avec Patrick Chamoiseau.
Et dans quelques instants, ça devrait vous plaire, Constance Guisset. Nous allons entendre Françoise Gaspard, qui est à la fois féministe et évidemment ethnologue. Oui, bah, qu'est-ce qu'il y a, Thomas Beau? Oui, c'est dans Avoine.